Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Édouard Philippe, les pouces verts à 3 jours des européennes. Premier rendez-vous du Conseil de défense écologique. Matignon promet que c'est l'outil ultime pour faire ruisseler la transition écologique dans tous les ministères. L'idée est peut-être aussi de siphonner l'électorat écolo, on verra ça. On vote aujourd'hui aux Pays-Bas, nous sommes à Maastricht et en Grande-Bretagne où le sort de Theresa May éclipse un petit peu le scrutin. Sur le marché de Nancy, 1 kilo de fruits pour un vote contre l'abstention. Au sommaire également ce soir, Bruno Le Maire qui tente de rassurer les salariés de Saint-Saulve. Le président du PSG mis en examen pour corruption dans l'affaire des mondiaux d'athlétisme. Un mafieux sicilien dans le dernier film de Marco Bellocchio à Cannes. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, les uns et les autres, nous serons face à nos incohérences écologiques en ce jour de Conseil de défense écolo. L'idée de départ, c'était le fret que l'État comptait arrêter entre Rungis et Perpignan pour privilégier la route. Du coup, ce soir, on se penche sur tous ces ratés-là, les ratés de l'État, mais aussi les nôtres. Transition, d'accord, mais pas d'éoliennes chez moi, mauvaise concertation dans des projets de panneaux solaires dans les champs notamment, des projets contestés ou mal amenés peut-être. La faute à qui quand la transition patine? 01 45 24 7000.
France Inter. Qu'est-ce qui est vert et qui sort du chapeau à 3 jours des européennes? C'est le Conseil de défense écologique. Une réunion de 12 ministres autour d'Édouard Philippe, promise par Emmanuel Macron après le grand débat, pour obtenir du concret et vite sur le climat et la biodiversité. Ses détracteurs espèrent déjà qu'il n'aura pas le même sort que le Conseil présidentiel des villes, lancé il y a un an et jamais reconvoqué depuis, on verra. Pour l'heure, de quoi s'agit-il? Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Pas grand-chose de concret. L'idée, c'est que la transition écologique infuse dans toutes les politiques publiques.
Oui, aujourd'hui, le Premier ministre a même repris à son compte le slogan des associations qui ont porté plainte contre l'État pour inaction climatique. L'écologie, dit-il, c'est l'affaire de tous, de tous les ministères, de toutes les dépenses publiques. Édouard Philippe promet ainsi qu'à l'automne, le projet de loi de finances pour 2020 sera vert.
Nous allons également mettre en œuvre une démarche de budget vert. Autrement dit, nous voulons faire en sorte que l'impact de nos décisions budgétaires soit systématiquement passé au crible de nos engagements internationaux en matière de préservation du climat et que nous puissions, pour chaque mesure, déterminer quelle est l'efficacité ou non en matière de préservation du climat de la dépense publique que nous engageons.
D'après le Premier ministre, il manque 20 milliards d'euros par an, privés et publics, pour financer cette transition écologique en France. Il annonce 3 milliards d'euros de prêts aux collectivités territoriales pour verdir les transports, trams, pistes cyclables, petites lignes ferroviaires et 1 milliard de prêts pour la rénovation énergétique des logements sociaux.
Seule annonce sortie de ce premier rendez-vous vert, Sandy, l'arrêt du projet Montagne d'or en Guyane, cette immense mine d'or à ciel ouvert. Et encore, c'est pas très clair.
Oui, le gouvernement campe sur une formule alambiquée sur l'avenir de ce projet d'extraction d'or prévu sur 800 hectares dans la forêt tropicale. François de Rugy, ministre de la Transition écologique.
Le Conseil de défense écologique a décidé de constater l'incompatibilité du projet actuel minier Montagne d'Or avec les exigences de protection environnementale. Nous souhaitons intégrer les exigences environnementales dans tous les processus miniers et donc d'engager la réforme du code minier qui pourra être présentée en Conseil des ministres en décembre prochain.
Alors, est-ce que le plan B, ce sont plusieurs petites mines d'or au même endroit? Le promoteur actuel de la Montagne d'Or va-t-il revoir sa copie? En tout cas, ce soir, dans son communiqué, la compagnie minière ne semble pas du tout prête à jeter l'éponge, bien au contraire.
Sandy Dauphin, ce Conseil de défense écologique ne sert à rien d'autre qu'à brasser de l'air pour Greenpeace. La République En Marche ne veut pas sauver le climat pour la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Le parti veut récupérer le vote écolo, dit-il. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
La ficelle est grosse à 3 jours des européennes. La majorité cherche clairement des voies vertes.
Et on a coutume de dire un dernier vert pour la route. Juste avant de voter, Emmanuel Macron et son gouvernement ont affiché leur détermination à obtenir des résultats concrets et rapides sur le climat à l'issue de ce premier Conseil de défense écologique. L'environnement est devenu l'un des principaux sujets de bataille à l'approche du scrutin de dimanche. La première place, c'est vrai, pourrait se jouer à quelques dixièmes de points. Alors, la REM essaye de ratisser chez les écolos, surtout que selon l'Institut Ipsos, la moitié des électeurs potentiel de Yannick Jadot n'est pas encore sûr de voter pour lui, eh bien ça n'est pas passé inaperçu du côté de l'Élysée. Chez ELV, on ne cesse de dénoncer cet opportunisme politique. Le Premier ministre a répliqué que ce conseil était de la grande politique avec un grand P. La tactique peut paraître un poil grossière. Elle intervient juste avant des grandes marches pour le climat. Demain, les jeunes, surtout samedi, des images chocs que ne pourront pas commenter les candidats tenus au silence pour cause de trêve électorale. Et souvenez-vous, en 2009, le film Home de Yann Arthus-Bertrand dans les derniers jours de la campagne avait, selon beaucoup de commentateurs, permis aux écologistes de tirer leur épingle du jeu. À l'époque, c'est vrai, ils étaient les seuls sur ce créneau.
Vote donc dimanche dans 21 pays, dont la France et l'Allemagne. Merci Cyril Graziani. Mais aujourd'hui, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, on sera à Londres dans un instant, mais direction d'abord la Hollande, où le Forum pour la démocratie du populiste Thierry Baudet est donné favori face aux libéraux du Premier ministre Mark Rutte. Reportage dans un bureau de vote de Maastricht, signé Angélique Bouin.
On vient bien souvent en vélo et parfois en famille depuis 7h30 ce matin. Les bureaux ouvrent tôt pour permettre de voter avant d'aller travailler. Ces deux électrices ont quelque peu perdu leurs illusions vis-à-vis de Bruxelles et de la classe politique, mais voter est pour elles un devoir.
On vote pour une bonne Europe. Je ne suis pas satisfaite de Bruxelles. Ils ont trop de pouvoir. Cela ne marche pas.
C'est mon droit, donc je vote, mais je ne fais plus du tout confiance aux politiques. Ils ne le font que pour l'argent, rien ne va plus.
Dans la queue pour voter, Arnold et Christian, tous deux francophones et pro-européens, ne bronchent pas. Mais l'union est pour eux en danger.
Les partis populistes deviennent trop grands ici. Et il n'y a pas des arguments, c'est seulement les émotions. C'est pas sérieux.
L'Europe, hein, ma copine, elle vit à Lille. Alors, l'Europe, c'est très important pour moi. Pour arriver là-bas, je dois croiser trois pays. Hein. Les Pays-Bas, la Belgique, et là, j'arrive à la France. Hein. Avec le populisme, c'est ça. Les gens votent sans réfléchir. Et après, on voit que ça ne marche pas. Alors, on votera quelque chose d'autre.
Afin de ne pas influencer le vote dans les autres pays, les résultats officiels ne seront pas publiés avant dimanche soir, mais les médias locaux devraient diffuser des sondages sortis des urnes dans la soirée.
On vote aussi en Angleterre aujourd'hui pour élire 73 eurodéputés qui ne siégeront peut-être jamais, Brexit oblige. Et alors que Theresa May pourrait faire ses valises très vite, bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Le départ imminent de la Première Ministre fait beaucoup plus parler que le scrutin chez vous, mais Theresa May s'accroche.
Ah oui, malgré les appels à la démission, malgré les 76 députés conservateurs qui promettent de voter contre son projet de sortie de l'Union européenne, malgré les sondages qui donnent les travaillistes à 10% d'intention de vote, eh bien elle est là, Theresa May, devant son bureau de vote de Maidenhead, à l'ouest de Londres, petite veste, jean, basket léopard et grand sourire. La ministre continue de dire qu'elle va chercher un compromis avec les parlementaires pour ne pas avoir à quitter Downing Street. Elle a mis son canapé devant la porte, résumant rigolant Ian Duncan Smith, l'ancien chef du Parti conservateur. En fait, même si elle fait bonne figure, Theresa May ne va probablement pouvoir rester encore longtemps à son poste. Si elle ne démissionne pas, elle sera poussée dehors par les militants et les élus. Les remplaçants potentiels sont déjà là, avec en tête Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, soutenu désormais par un ancien ministre de la Défense. Il plaide pour un Brexit rapide, quitte à revenir aux règles de l'OMC, et son discours ressemble à s'y méprendre à celui de Nigel Farage, l'ancien chef du Parti d'extrême droite UKIP, qui est de retour et qui est largement en tête des sondages, lui aussi a voté aujourd'hui avec le sourire.
Chez vous à Londres, comme ici en France, merci Antoine Gignot, l'inconnu c'est l'abstention, 6 électeurs sur 10 n'étaient pas allés voter en 2014. Alors pour mobiliser, voici l'idée de Lulu, primeur au marché central de Nancy. Il offre 1 kilo de fruits et légumes à ceux qui vont voter dimanche.
Alors vous venez avec votre carte de lecteur, tamponnée. Après, moi, je vous dirai qu'est-ce que j'ai en choix. Par exemple, si là, j'ai des oranges, des poires, des pommes, je dis, vous pouvez avoir 1 kilo de ça. Et sans obligation d'achat. J'aime bien la politique, mais je peux pas en faire parce que je suis commerçant. Comme ça, je m'engage.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Ça fait longtemps. Et ça marche bien. Et puis, c'est les gens qui me demandent. Puis, comme ça a du succès, on continue. Quand même, au présidentiel, on a offert 1 tonne. Et ça a un coût quand même... Ça m'a motivé parce que j'ai vu pas mal de jeunes venir. Les jeunes, ils étaient contents d'avoir voté et puis contents d'avoir eu 1 kilo de fruits aussi. C'est pas mal d'étudiants. Puis, je veux dire, c'est leur avenir quand même. Hein.
Le primeur très europhile du marché de Nancy au micro de Mélanie Juvet. Son opération est valable de dimanche à mercredi 29 mai, à condition évidemment de présenter sa carte d'électeur tamponnée. Il l'a dit, on vote demain en Irlande et en République tchèque. Et puis chez nous, Marine Le Pen perd une bataille à 3 jours du scrutin. La justice européenne confirme qu'elle doit rembourser 300 000 euros au Parlement pour avoir fait travailler pour son parti des assistants payés par Bruxelles. La patronne du Rassemblement national dénonce de basses manœuvres et promet une réponse dans les urnes.
Le gouvernement promet aux salariés que Saint-Saulve vivra.
Oui, Édouard Philippe disait ce matin, la partie n'est pas perdue, nous allons la gagner. Bruno Le Maire a fait pareil cet après-midi après l'annonce de la faillite de British Steel, le repreneur de l'acierie. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Le ministre de l'économie recevait syndicats et élus locaux à Bercy sans les convaincre. Ce sera au repreneur de le faire la semaine prochaine.
Oui, Bruno Le Maire qui a pris son téléphone aujourd'hui.
J'ai appelé cet après-midi le repreneur. Je lui ai demandé d'aller à la rencontre des salariés d'Ascoval la semaine prochaine.
Le ministre qui a eu l'assurance, semble-t-il, que les engagements seront tenus. Les salariés attendront l'actionnaire de pied ferme, en tout cas Nassim Bardi, délégué CGT.
Il a intérêt à venir. Mais s'il vient, il ne faut pas qu'il vienne les mains vides. Parce que les salariés n'en peuvent plus et nous, c'est compliqué. On n'arrive pas à trouver les bons mots, là. C'est très compliqué, très compliqué. Quand vous passez par 3 repreneurs différents, ce qu'on mettait à l'Altifort, et maintenant British Steel, et puis qu'ils ont tous des difficultés financières, il faut arrêter, là. C'est une comédie dramatique. C'est une comédie dramatique et derrière, on risque d'avoir des drames dans l'usine.
Le repreneur qui n'aura pas intérêt à jouer avec les salariés, encore une fois, Bruno Kobzinski de la CFDT, veut des actes et rien d'autre.
Je pense que le premier acte qu'il va pouvoir faire, c'est d'amener tout de suite sur la table l'argent en cash, de montrer qui tient parole, et croyez-moi qu'on va le surveiller de près. Puisque si on veut imaginer un peu aujourd'hui notre situation, on est le Boeing qui est sur la piste de décollage et qui vient d'éclater un pneu. Et il faut changer très vite la roue avant de pouvoir prendre l'air, sinon on va se cracher.
Une chose est sûre, l'accueil la semaine prochaine s'annonce glacial. On nous avait promis que cette fois ce serait carré, achève un délégué syndical. Il ne faudra pas attendre non plus des amabilités de la part des salariés.
Maxime Debs en direct de Bercy avec Olivia Branger. Merci à tous les deux. La guerre du sucre fait toujours rage sur fond de cours au plus bas. Les betteraviers allemands refusent de céder 2 sites à leurs collègues français, Cany dans le Calvados et Ebbwil dans la Somme. Le numéro 1 européen du raffinage allemand, Südzucker, va les fermer. 217 emplois sont concernés.
Le tour du propriétaire, Sébastien, au procès Balkany.
Visite guidée détaillée des propriétés du couple, jugé pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Une première villa à Saint-Martin, plus tard sûrement le Riad de Marrakech et le moulin de Giverny. Sarah Guibaudot, le tribunal cherche à savoir comment le maire de Levallois et sa femme ont acheté tout ça.
Le président fait projeter quelques photos du moulin de Giverny. C'est vraiment une violation de la vie privée, tempête Patrick Balkany, tandis qu'apparaissent une piscine et une grande bâtisse à colombages qui ont plus d'allure que dans sa description. En 1986, le nom des Balkany est sur l'acte de vente. Ce n'est plus le cas 3 ans plus tard, quand une société du Liechtenstein achète la première villa aux Antilles. « Je ne connais pas le Liechtenstein », dit Patrick Balkany, qui assure qu'il ignorait ces montages financiers complexes. « C'est curieux, l'esprit suisse », fait-il, avant d'égratigner les grandes entreprises qui cachent leurs bénéfices et de regretter qu'on ne parle pas d'harmonisation fiscale dans la campagne des européennes. Cet argent, Patrick Balkany maintient qu'il venait de son père. Alors vous allez me dire, c'est pas moral, mais c'était une autre époque, monsieur le président, avant de convoquer encore la mémoire de son père, juif, résistant, déporté. J'ai surtout l'impression qu'on fait le procès des juifs qui, à la libération, ont pris leurs dispositions, va jusqu'à dire Patrick Balkany. À un autre moment, il souligne que des milliers de Français avaient un compte en Suisse et lance « J'aimerais pas être celui qui paye pour tout le monde ».
Sarah Guibaudot, l'ambassadeur du Vatican en France, nie toute agression sexuelle. Après les confrontations hier et aujourd'hui aux 2 jeunes hommes qui ont porté plainte contre lui, confrontation très éprouvante où il a nié en bloc sans qu'on puisse lui poser de questions, disent les 2 jeunes gens. Luigi Ventura est toujours protégé par l'immunité diplomatique.
Le taliban américain est sorti de prison.
John Walker Lind, 38 ans, 17 en cellule, et les GIs l'avaient capturé en 2000. Au début de l'offensive américaine en Afghanistan. Sa libération dépasse l'entendement pour le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Les États-Unis qui font sortir la Chine de ses gonds dans le dossier Huawei, le géant des télécoms placé sur liste noire par Washington. Protestation solennelle, Dominique André, auprès des États-Unis.
La guerre commerciale a pris un tournant technologique. La Chine a protesté officiellement contre les mesures prises par Washington pour empêcher Huawei de se fournir en équipement auprès des industriels américains. La campagne anti-Huawei s'étend. Le professeur Larry Diamond de l'université de Stanford est venu jusqu'en Asie pour mettre en garde le monde entier contre le numéro 2 mondial des smartphones.
Les sociétés occidentales, comme le reste du monde, doivent comprendre que Huawei n'est pas une entreprise indépendante. C'est comme une extension commerciale du Parti communiste chinois. Si cette société réussit à construire le réseau de la 5G partout dans le monde, il y a des risques sérieux que toutes les données qui transiteront par leur réseau soient capturées par Huawei et transférées au superordinateur du Parti communiste chinois pour être analysées, transmises et regroupées avec d'autres informations. Je pense que cela posera de vraies menaces sur la sécurité nationale des pays.
Mais si la Chine est vulnérable sur le plan technologique, les États-Unis sont dépendants des terres rares, ces métaux essentiels pour les technologies de pointe dont la Chine est le premier producteur mondial. C'est d'ailleurs un moyen de pression pour le régime chinois qui s'en est déjà servi en 2010 contre le Japon. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le président du PSG a-t-il tapé dans le puits qatari pour tenter d'obtenir les mondiaux d'athlétisme de 2017 et 2019 ? En tout cas, Nasser El Khelaïfi est à son tour mis en examen pour corruption active. Les juges se penchent notamment sur 3,5 millions de dollars versés à une société de marketing sportif dirigée par le fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, lui aussi mis en examen. NAC, comme ses proches l'appellent de ses initiales, c'est l'homme clé, Christian Chesneau, des investissements sportifs au Qatar.
Dans le sport, Nasser Al Khelaïfi est l'homme de confiance de l'émir Tamim dont il fut le professeur de tennis. Patron du PSG, c'est un rouage essentiel dans la stratégie sportive du Qatar, car outre le club de football de la capitale, Nasser Al Khelaïfi préside Qatar Sports Investments, structure qui gère les participations financières qatariennes dans le sport, QSI, et notamment propriétaire de l'équipementier suisse Burda. Pour le Qatar, le sport est une projection de puissance afin d'exister sur le plan international, mais qui sert aussi à recycler ses immenses richesses gazières. Au sommet de ces stratégies, il y a bien sûr l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football en 2022. Sur une décennie, l'Émirat va débourser une centaine de milliards de dollars. Car outre la réalisation des 8 stades pour accueillir les matchs, cet événement planétaire a permis aussi au Qatar de construire un nouvel aéroport, un métro ou encore un tramway. Les démêlés judiciaires de Nasser Al Khelaïfi sont une bien mauvaise publicité pour le Qatar, dont l'obsession de briller sur la scène sportive jette une lumière crue sur ses pratiques de lobbying.
Un hommage et des obsèques publiques pour Niki Lauda, mercredi prochain à la cathédrale de Vienne, le pilote de Formule 1 disparu lundi à 70 ans. Deux morts également hier sur l'Everest, un Américain et une Indienne de 55 ans, morts à cause des embouteillages sur le toit du monde. C'est la saison où la météo permet les ascensions, alors il y a beaucoup de cordées près du sommet. Trop pour Marc Battard, premier alpiniste en haut de l'Everest en moins de 24 heures, c'était en 88. Il était en solo et sans oxygène et il est ici avec Rémi Brancato.
Il y a des gens qui meurent sur l'Everest parce qu'il y a des gens sans scrupules qui font du business à outrance. Je connais une des plus grosses agences au Népal qui a une puissance financière qui arrive à maîtriser un petit peu ce qui se passe au ministère pour la délivrance des permis. Et ce qui fait que le permis, on le diminue ou on l'augmente suivant l'offre et la demande. Et là, en ce moment, il y a eu une demande énorme et on arrive à ce genre de bêtises. Bon, l'Everest en lui-même, techniquement, c'est pas très difficile, mais se trouve que la partie finale est quand même assez étroite. Donc, il y a forcément un goulot d'étranglement qui fait que les gens sont obligés d'attendre et ce qui arrive à l'accident qui vient d'arriver. Il y a un certain nombre de gens qui veulent mettre à leur palmarès que ce soit le Mont Blanc, l'Aconcagua qui est le plus haut sommet des deux Amériques. Les Argentins gèrent extrêmement bien l'afflux des clients, mais malheureusement l'Everest et le Mont Blanc, c'est difficile à gérer. Ça fait des années que c'est mal géré, c'est vraiment une boîte à fric et c'est quand même dommage. Et franchement, l'Everest mérite mieux que ça.
Des morts, mais une première. Elisabeth Revol a réussi l'ascension ce matin. Elle est la première française à gravir l'Everest sans oxygène. Moins risqué, les marches de Cannes avec avant le palmarès dimanche en compétition aujourd'hui. Le nouveau film de l'Italien Marco Bellocchio, Le Traître, à 80 ans, Eva Bétan. Il n'avait toujours pas fait son film sur la mafia.
Un enterrement, des fleurs à foison, des femmes en noir, cela commence comme une scène classique d'un film de mafia et s'en éteint. Mais la concession au folklore sera brève. L'intérêt de Bellocchio se porte ailleurs sur un repenti, un traître qui a véritablement existé, Tommaso Buscetta, et qui a la particularité d'avoir fait ses aveux au célèbre juge Falcone. Buchetta, qui occupe une place importante dans l'organisation, décide de parler officiellement parce qu'il désapprouve les méthodes de certains clans particulièrement barbares, en contradiction avec un pseudo-code d'honneur de la Cosa Nostra, peut-être plus prosaïquement pour assurer sa sécurité. Buchetta évoquera aussi son estime pour le juge Falcone. Les scènes entre les deux hommes, dont on s'attend à ce qu'elles soient un moment clé du film, sont brèves et c'est dommage. Et il y a par ailleurs une certaine froideur dans ce film, avec des allers et retours dans le temps qui éclatent le portrait du repenti. Il montre aussi ce qu'a été la lutte contre la mafia à l'époque, avec les procès géants de mafieux, ceux-ci étaient jugés par Fournet. Le monde que Marco Bellocchio tente d'approcher par fragments garde une certaine opacité. Bellocchio prend en compte le fait que nous savons très peu sur la Cosa Nostra, quoi qu'en ait dit jusque-là le cinéma. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Le traître de Marco Bellocchio en compétition aujourd'hui, tout comme le deuxième volet de Mektoum My Love d'Abdelatif Kechiche, projeté ce midi.
Sébastien Paour pour le journal, merci beaucoup.